parole du temps et l'Apocalypse dans le sens de révélation, dans le sens de révélation, oui, parce que la révélation, c'est l'ouverture d'un voile. Et bien sûr, quand on parle du trône de Dieu et du ciel où se trouve le trône, il y a bien sûr une allusion au temple de Jérusalem avec le voile qui cachait le Saint des Saints. Et maintenant, avec Jésus, sous la forme de l'agneau immolé, sur le trône en même temps que le Père, avec l'Esprit qui est présent tout autour, nous donne une image de la révélation de la Trinité, qui va évidemment plus loin que le voile du temple. Mais le terme de révélation dit justement cette ouverture. Est-ce que l'Apocalypse décrit la fin du monde ou le début d'un nouveau monde? Au fond, l'Apocalypse ne décrit rien. Elle donne beaucoup d'images pour faire percevoir une réalité intérieure. Et ces images donnent en quelque sorte le change. Et la fois passée, vous avez vu qu'il y avait une sorte d'inflation des images. Et cette inflation des images ne doit pas nous tromper. Derrière ces quantités d'images, il y avait une réalité profonde intérieure, c'est-à-dire un rapport vraiment intime avec la présence de ce qui est manifesté. Et nous allons voir tout de suite comment, à l'intérieur de ce monde, à travers les vicissitudes de ce monde, les difficultés, les épreuves, à travers les cataclysmes qui sont en quelque sorte normaux dans ce monde, comme des maladies, des épidémies, des réalités de guerre, des conflits, tout ça, ça arrive effectivement dans ce monde depuis qu'il existe. Eh bien, l'important, c'est de savoir quelle est la présence de Dieu qui se manifeste à l'intérieur de notre propre vie et à l'intérieur de nos communautés. L'Apocalypse est écrite, pour des personnes qui étaient au sein d'une persécution et d'une grave persécution. Ils étaient pris à partie par les gens parce que les chrétiens de cette époque, ou des communautés dont nous avons vu les noms au début, ces gens n'étaient pas dans le courant de la population, de la vie citoyenne, et ils n'adoraient pas l'empereur. Ils ne le divinisaient pas. Et donc c'est à partir de cette situation-là, une situation de crise, que l'Apocalypse nous montre la révélation de la présence de Dieu à l'intérieur de ce monde et de ses difficultés. Est-ce que, maintenant, autre question, le livre de l'Apocalypse était compréhensible à tous les chrétiens contemporains de Jean? Ou bien y a-t-il une odeur de gnose? Non, la gnose n'est pas de ce type-là. Une apocalypse, c'est une révélation à travers des énigmes. La gnose va plutôt dans le sens d'une grande intellectualité, d'une grande abstraction, d'un raisonnement. Tandis que l'Apocalypse était, en tout cas pour les communautés chrétiennes persécutées, était compréhensible. Pourquoi? Mais parce que leur langage était celui des Écritures, c'est-à-dire de tout l'Ancien Testament, et surtout des prophètes, comme nous ne le connaissons plus, ni comme les gens du Moyen-Âge, ni comme les gens de cette époque, nous pensons qu'il était difficile à percevoir. Mais il était beaucoup plus facile parce qu'ils avaient déjà bien expérimenté le langage prophétique. Pouvons-nous maintenant prier sur un passage de l'Apocalypse? Certainement. Du moment que nous ne nous attachions pas tellement aux images ou à ce que les images peuvent dire à notre imaginaire, mais dans la mesure où nous pouvons percevoir derrière ces images la réalité profonde qui est visée. Alors, brièvement, si nous voulons faire un petit peu le point pour ce que nous avons vu la fois passée, passé, eh bien, nous avons découvert qu'il y avait des trompettes, la trompette qui signifie un signal, un appel. Est-ce un appel au combat? Ça pourrait l'être. Est-ce un appel à une célébration liturgique? Ça pourrait l'être aussi. Le tout est de voir comment la réalité du Seigneur présent dans ce monde peut être à la fois un combat et une liturgie. Mais nous allons déjà avancer dans ce domaine-là ce soir. Mais ce que nous avons vu la fois passée avec ces trompettes, c'est pour montrer que Dieu est présent à ce qui se passe sur la terre, puisqu'il est le responsable de la création. Et donc il ne se détache pas de ces gens qui sont persécutés. Il croisait là ce que nous avons entendu, ou en tout cas qui sont annoncés, nous disent précisément que à travers ce que nous vivons, et qui est une chose difficile, à travers cela, il est présent. Et de temps en temps, il y a une sorte d'ouverture, de surgissement de la liturgie qui est comme une cérémonie d'adoration. Comment, Seigneur, es-tu présent au milieu de ce monde? Mais nous avons vu aussi, même quand l'étoile est tombée du ciel, vous savez que cette étoile qui s'appelle Absinthe, elle est tombée du ciel, le nom de l'absinthe en russe, c'est Tchernobyl. Non, mais il n'y a pas de rapport immédiat, mais enfin ça nous fait penser. Oui. Mais malgré tout cela, malgré tout ce qui se passe dans le monde, l'homme s'endurcit. L'homme n'est pas, je dirais, par lui-même invité à croire. Normalement, les cataclysmes devraient être un moment privilégié de prière. Et ce n'est pas le cas. Alors, quand Jean, nous l'avons vu, était invité à prendre au sérieux son rôle de prophète, eh bien, et puis les deux témoins dont nous avons parlé la fois passée, ils nous disent au fond quel est le chemin. Le chemin, c'est vraiment la prophétie. La prophétie n'étant pas de dire l'avenir, nous n'avons rien à dire sur l'avenir, mais nous avons à vivre le présent sous le regard du Seigneur. Et c'est ça que dit le prophète. Nous avons maintenant entendu les six coups de trompette. Et nous arrivons au chapitre 11, verset 15, où je vous ai quitté la fois passée. Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut de grandes voix dans le ciel qui disaient « Le royaume du monde est maintenant à notre Seigneur et à son Christ. » Vous voyez bien que c'est une confession de foi. Est-ce que nous pouvons dire cette chose, la même chose, aujourd'hui encore? Qu'est-ce que nous disons lorsque nous récitons notre credo? Je me suis arrêté à réciter parce que ce n'est pas une récitation de dogme, de titre de dogme, ou de table de matière, parce qu'il faut croire. Notre credo, c'est la réalité de notre vie, de notre existence. C'est notre histoire propre. Mais il faudrait le montrer. C'est une chose, c'est une réalité à vivre. Il règnera pour les siècles des siècles, nous disons cela, puisqu'il est le roi, puisqu'il est le créateur, puisqu'il est celui qui traverse toute notre histoire pour nous mener au Père. Il règnera pour les siècles des siècles. Il est 24 anciens qui siègent devant Dieu sur leur trône. Ce sont les représentants de l'humanité entière. Se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu. Et nous sommes invités à faire de même. Ça peut évidemment se prier. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. Tiens, il ne dit plus et qui vient. Parce qu'il est venu. Il est venu par sa mort, par sa résurrection. C'est ce que nous allons avoir précisément aujourd'hui. Parce que tu as exercé ta grande puissance et que tu as établi ton règne, c'est une réalité passée. Mais dont nous découvrons, dont nous est révélé l'enjeu. Et alors, en quelques mots, on nous redit cette histoire. Les nations se sont mises en colère. Mais c'est ta colère qui est venue. On voit ça souvent dans l'Ancien Testament. Hein, les différentes nations, les voisins d'Israël, hein, qui se jettent sur le peuple d'Israël. Elles se mettent en colère. Mais c'est ta colère qui est venue. Et finalement, Dieu, en quelque sorte, par le triomphe même de son peuple Israël, bien sûr, qui sort d'Égypte, et il faut du temps pour qu'il vive un tout petit peu le Sinaï, hein, le don de la Torah au Sinaï, ou bien les captifs qui reviennent de Babylone, il leur faut un certain temps pour montrer qu'ils sont bien avec Dieu là où ils sont. Les nations se sont mises en colère, mais c'est ta colère qui est venue, la colère contre ces nations, ainsi que le temps du jugement pour les morts. Pour les morts, nous avons vu que les deux témoins, qui peuvent être aussi, hein, qui peuvent être aussi bien Élie et Moïse que Pierre et Paul, que tous les témoins, tous les martyrs, ainsi que le temps du jugement pour les morts. Le temps de donner leur récompense à tes serviteurs, les prophètes et les saints, et à ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Le temps de détruire ceux qui détruisent la terre. Le Seigneur doit détruire la destruction, mais il ne peut pas le faire sans les hommes. Et donc c'est une invitation à vivre ce que dit cette prière. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel et l'arche de son alliance apparut dans son temple. De nouveau, nous avons cette vision de ce qui se passe au ciel. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Nous nous trouvons, de nouveau, avec une théophanie, c'est-à-dire une apparition de Dieu. Dieu apparaît en quelque sorte lorsque nous prions. Il y est présent. Il faut le dire de manière extérieure parce que c'est très intime, parce que c'est très profond. Et donc voilà où nous en sommes. L'ouverture du temple et l'apparition de l'arche. C'est dans une caisse de bois que la parole de Dieu était enfermée. Cette parole de Dieu, elle est enfermée dans la réalité de nos communautés et dans notre cœur. Est-ce que nous la laissons vivre? La question se pose. Mais alors nous allons commencer le chapitre 12e, où nous voyons une séquence de différents signes, des réalités qui apparaissent, donc qui sont pratiquement à l'ouverture de cette 7e trompette. Il y a des signes. Ces signes, il faut évidemment les décrypter pour voir de quoi ils retournent. Je lis d'abord un petit ensemble, quitte à ajouter l'un ou l'autre mot, et puis nous réfléchirons sur le texte. Et un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, vêtue de soleil et la lune sous ses pieds. Sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, et elle criait dans le travail des douleurs de l'enfantement. Et un autre signe apparut dans le ciel. Voici. C'était un dragon, rouge feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel, et elle les jeta sur la terre. Ici, un petit mot. On parle du ciel et de la terre. Attention, ces mots peuvent faire difficulté. Il ne s'agit pas, même si extérieurement cela paraît comme si le ciel c'est quelque chose qui se passait au-dessus de nous, et puis la terre, c'est notre réalité. Non, le ciel et la terre, ce sont deux réalités qui sont en nous. Les réalités spirituelles, les réalités profondes, la présence de Dieu, ça c'est le ciel. Les réalités coutumières, tout le pratique, tout le technologique, toute l'organisation, tout ça, c'est la terre. C'est la réalité de la terre. Mais ça se passe vraiment à l'intérieur de nos vies. Donc, attention, n'extrapolons pas ces choses qui sont intérieures. Il s'agit de cette réalité-là. C'était un dragon rouge-feu. Nous avons déjà vu la symbolique de ce rouge-feu qui signifie la violence. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Et sa queue balaye le tiers des étoiles. Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Il y a une certaine image de la société qui se présente là. La femme est celle qui porte la vie et qui met la vie au monde, et l'homme est là. Prêt à détruire, prêt à manger, à dévorer plutôt. Et l'enfant d'un fils, un mâle, qui va mener paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Donc il échappe à la réalité matérielle. La femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a fait préparer une place pour qu'il y soit nourri 1260 jours. Nous allons revenir sur tous ces termes. Il y eut un combat entre le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon combattit aussi, lui et ses anges. Mais il n'eut pas le dessus. On ne trouva plus leur place dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien qu'on appelle Diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui furent précipités. Et j'entendis une voix forte qui dans le ciel disait « Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu, et du pouvoir de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. » Mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui avez votre demeure. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous dans une grande fureur, sachant qu'il n'a que peu de temps. Et quand le dragon se vit précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert en son lieu, là où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Et le serpent vomit de sa gueule derrière la femme de l'eau comme un fleuve pour la faire emporter par les flots. Mais la terre vint en aide à la femme. La terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule. Et le dragon s'irrita contre la femme. Il s'en fut porter le combat contre le reste de sa descendance, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Puis, et se posta sur le sable de la mer. De quoi s'agit-il ? Vous connaissez probablement bien ce texte, puisque c'est celui que nous lisons année après année, le jour de l'Assomption de la Vierge Marie. Et la liturgie adapte, en quelque sorte, comprend ce texte de la Vierge Marie. Et nous verrons qu'il n'a pas tout à fait tort. Je ne dis pas tout à fait. Mais que ça va plus loin que ça. Si vous avez bien entendu ce qui se passait à propos de la femme, on parle de la femme, on parle d'un enfant qu'elle met au monde, on parle de sa fuite au désert, elle est nourrie par Dieu, on parle aussi de ce dragon qui continue de combattre, pourrait-on dire, contre la femme, qui poursuit la femme, et il y a les deux ailes du grand aigle qui lui sont données. Et quand nous voyons tous ces termes, nous les prenons un peu nous matériellement, mais ils viennent pratiquement tous de l'Ancien Testament. Il y a aussi le serpent. Et le serpent nous indique, nous fait remonter jusqu'au chapitre 3e de la Genèse, jusqu'à l'histoire d'Adam et Ève et du serpent. Et on voit bien que ce dragon rouge-feu symbolise la violence, d'une manière générale. Je n'ose pas dire le mal, parce que le mal est un mot abstrait, mais la violence, elle est véritablement réelle. Et on voit bien que ce dragon, vous savez que le dragon, c'est un animal mythique, encore que ce dragon intervienne beaucoup dans les blasons de beaucoup de quantités de pays. Un lion qui crache du feu, ou un ours ou une ours qui crache du feu, etc. On a encore cette image en tête. C'est vraiment l'animalité violente qui est à l'intérieur des hommes. C'est ça ce dragon rouge, mais qui ne veut que la violence, en quelque sorte. Et à côté de cette force, et qui ne peut pas se mesurer avec cette force extérieure, justement, de violence, nous trouvons une femme. Et une femme qui va enfanter, qui va mettre au monde un petit enfant tout fragile. Et vous voyez bien, je n'aime pas dire que c'est la lutte entre le bien et le mal, comme on dit parfois. Et alors on met un peu l'Apocalypse sur le même pied que Narnia ou bien les anneaux. Le Seigneur des Anneaux, hein, je crois. Mais ça, c'est de l'abstrait, et ça, c'est de la gnose. Ici, il s'agit de notre réalité courante, notre réalité de tous les jours. Et ce combat, s'il est dans le ciel, c'est parce que c'est un combat spirituel, c'est un combat intérieur. Il ne faut pas voir ça comme dans l'extériorité. Mais les images sont fortes pour émouvoir notre intimité. Alors, quelle est cette femme? C'est Ève, d'accord. C'est la mère d'un vivant, de tous les vivants. Mais vous voyez bien aussi que cette femme qui s'enfuit au désert et qui est nourrie au désert, mais c'est aussi le peuple d'Israël qui est passé à travers le désert. Et vous savez que le peuple d'Israël est toujours comparé à une femme. C'est aussi, bien entendu, aussi, comparaison féminine, la. Sion, la fille de Sion, comme on dit généralement dans les textes prophétiques. La réalité de Sion, vous voyez, une ville est toujours comparée à une femme. Parce qu'une ville, c'est toujours une famille, une quantité de personnes. Tous ceux qui sont passés par son ventre constituent la société. Donc, femme est toujours liée dans l'écriture à la société. Une famille d'hommes, une réalité humaine. Donc il s'agit aussi du peuple d'Israël. Et le travail d'enfantement annonce évidemment une nouveauté, un nouveau monde. Nous pensons presque immédiatement, nous pensons à la naissance de Jésus. Mais Saint Jean ne veut pas décrire ici la naissance de Jésus. Il veut nous parler, de façon extrêmement profonde, de la naissance de ce nouveau monde qui est un monde ressuscité. Déjà, dans l'Église primitive, et Saint Jean le fait lui-même au chapitre 16e de son évangile, et il compare justement ce nouveau monde de la résurrection à une femme qui va enfanter, qui s'attriste parce que son heure est venue, mais qui se réjouit lorsqu'elle a mis un enfant au monde. Il s'agit vraiment de Pâques. Et Pâques dans l'Église primitive, et vous pouvez voir dans les textes des Actes des Apôtres, Pâques est toujours comparé à une naissance. La naissance d'un peuple de ressuscité que nous sommes. À nous de le découvrir. Et si nous citions tous les passages auxquels ces quelques versets font allusion, nous n'en sortirions pas, parce que le livre d'Isaïe, par exemple, est plein de ces allusions d'une femme qui enfante. Dieu est comme une femme qui enfante, c'est-à-dire qu'il est présent dans le monde pour donner la vie, et qu'il recense ce monde auquel il donne la vie, comme une maman ressent son enfant qui vit dans son sein et qu'elle doit donner au monde. Mais, s'il s'agit d'Ève, s'il s'agit du peuple d'Israël, s'il s'agit de la Sainte Sion, il s'agit aussi de la Vierge Marie. Mais, pas exactement de la naissance de Jésus, mais plus exactement de la naissance de l'Église, ou du moment où l'Église va commencer à exister dans le sein de la Vierge Marie. C'est-à-dire, c'est le passage du chapitre 19e de Saint Jean, vers les versets 25, où Jésus dit à Jean, voilà, voici ta mère, et à Marie, voici ton fils. Et dès ce jour-là, le disciple l'a pris chez lui. Il s'agit de la découverte de Marie comme la mère du peuple de Dieu qui est l'Église. Elle était déjà présente dans l'Ancien Testament, sous le symbole de la fille de Sion. Et voilà que Jésus l'a donnée comme mère à l'Église. Bien sûr, il va naître Jésus au moment où il sort du tombeau, mais il est déjà conçu. Et c'est cette vision-là que nous raconte Saint Jean. On s'est demandé d'où Saint Jean avait-il tiré cette histoire. Et c'est vrai que vous trouverez dans un certain nombre de commentaires de Saint Jean toute une quantité d'allusions à une mythologie. Et c'est parfois frappant, parce que vous savez que dans la mythologie grecque, on parle d'un monstre qui s'appelle Python, le serpent, un monstre, qui poursuit une femme qui a conçu d'un dieu de Zeus, Léto, qui a été enceinte de Zeus, et qui est transportée par le dieu du vent et de la mer, jusqu'à combien de la mer Égée, Délos, pas très loin de Patroclus. Alors, beaucoup de commentateurs disent, voilà, c'est de cette mythologie qu'il a tiré les choses. Peut-être qu'il a eu ses connaissances de cette mythologie, et vraisemblablement. Mais il parle de toute autre chose. Il parle avec le langage de l'écriture. Et il s'agit davantage, plutôt que d'une description mythologique, il s'agit davantage de l'histoire d'Israël. Et évidemment, des débuts de l'Église. Mais, lorsque nous réfléchissons bien, si déjà la mythologie faisait naître cela, d'une femme, comme un enfant divin, alors qu'un monstre veut le dévorer, ça veut dire qu'il y a quand même, dans la mémoire des hommes, des représentations. Et la révélation ne va jamais à l'encontre de ces représentations anthropologiques très profondément humaines. Mais il s'agit, et j'y reviens parce que c'est indispensable pour comprendre ce passage, il s'agit vraiment de l'enjeu de la résurrection du Christ. Jésus lui-même dans l'Évangile nous dit que lorsque vous entendrez des guerres, des bruits de guerre, des remuements de population, des cataclysmes, etc., ne soyez pas effrayés. Ce sont la douleur d'enfantement. C'est-à-dire, de ce monde, renaître un autre monde. Oui, c'est ce langage-là. Ça, c'est le langage que l'on appelle apocalyptique, c'est-à-dire révélateur pour quelqu'un qui pénètre la réalité profonde de ce qui est écrit. Donc, il s'agit de notre combat de tous les jours. Nous combattons avec notre chair fragile, parce que, comme vous l'avez bien compris, nous sommes le reste de la descendance de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui essayent du moins, et qui ont le témoignage de Jésus, qui se disent chrétiens. Et donc nous ne pouvons rien contre ces forces extraordinaires. Mais le Seigneur nous en délivre. Non pas qu'il nous y fasse échapper, mais il est présent et il les porte avec nous parce qu'il est passé par la mort. Et que de la mort, il a fait surgir la vie. Oui, ce passage, c'est une représentation du matin de Pâques. Et même les deux ailes du grand aigle qui sont données à la femme pour l'emporter au désert, vous les retrouvez au chapitre 19e, au verset 4, si je ne m'abuse, du livre de l'Exode. Vous savez, ce grand aigle, c'est ce que vous trouvez sur le siège, le trône du Pharaon. C'est le signe. D'ailleurs, vous avez le bec d'aigle sur le chêne de la coiffure du Pharaon. Le grand aigle, c'est l'oiseau protecteur. Et vous avez vu, dit le texte de l'Exode, c'est Dieu qui parle, vous avez vu comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et emmené jusqu'à moi. Quand on laisse chanter tout ce texte d'Écriture, on comprend bien. Si nous ne comprenons plus, c'est que nous n'avons pas encore mangé toute l'Écriture. Et alors, qu'est-ce qu'il fait sur ce traîneau, cet animal étrange? Il se posta sur le sable de la mer. Il est entre mer et terre. Et donc, c'est une réalité, nous dirions aujourd'hui, marginale. Et donc, cette violence, comment vit-elle dans ce monde? Comment arrivons-nous en nous? Ne nous mettons-nous jamais en colère? Ne nous fâchons-nous jamais? Ne nous opposons-nous pas à des réalités qui nous font mal? Est-ce que nous ne nous émerveillons pas parfois? Sommes-nous parfois impatients? Voilà toutes sortes de choses qui nous montrent qu'il y a de la violence, non pas seulement dans nos familles, dans notre société ou entre les peuples, mais en nous-mêmes. Alors je vis. Nous sommes au chapitre 13. Alors je vis. Et qu'est-ce que vous avez? Oh bien, on a oublié de vous dire une chose. Ces 1260 jours là, eh bien ces 3 ans et demi, la femme est nourrie au désert, c'est un temps humain. Un temps humain. 20 ans, 100 ans, ce sont des temps humains, cela. Quand on arrive au millénaire, ça devient un peu plus compliqué. Mais des dizaines ou des centaines d'années, ça va. C'est le temps d'Israël, le temps de l'Église, le temps du peuple de Dieu. C'est en tout cas un temps limité. Et nous pouvons nous réjouir qu'il soit limité. Et aussi que ce dragon aux cheveux soit précipité. C'est maintenant la victoire du Seigneur, la victoire, le prince de ce monde est jeté à bas. Nous trouvons ça dans l'évangile de Saint Jean. Il y a beaucoup d'accointances entre l'évangile de Jean, l'Apocalypse et la première lettre de Saint Jean. Et on voit bien que ça vient, que cela émane, sinon exactement du même auteur, ou moins du même milieu ecclésial. Alors, je vis monter de la bête, d'abord, une bête, qui avait 10 cornes et 7 têtes. Qu'est-ce que c'est que ces bêtes couronnées? Eh bien, c'est l'homme qui devient animal. Pourrions dire aujourd'hui, c'est malade qui nous gouverne, ou c'est violent qui nous gouverne. Les têtes couronnées, les gens qui ont goûté au pouvoir aiment généralement le garder et le manifester, et dominer. Mais dans un temps préalable aux élections, on peut comprendre ce que ça veut dire. Je vis monter de la mienne une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. On veut dominer, Les cornes, c'est toujours la force, Comme les animaux, Sur ces cornes, dit Adèle, et sur ses têtes, un nom blasphématoire. C'est dit diadème, on perçoit bien qu'il s'agit de 10 emplois romains. La question est de savoir à partir duquel il faut commencer, Vitellius, etc. N'est-ce pas bien Titus Domitien? On est tout le temps Domitien. Donc, pour monter un petit peu en arrière, donc, on voit bien que derrière cette bête, il y a l'Empire romain, c'est-à-dire l'Empire totalitaire. Ça vaut de l'Empire romain, ça parlait de l'Empire babylonien, ça vaut encore d'un certain nombre d'empires, et parfois de notre petit empire à nous. La bête que je vis ressemblait au léopard. Ses pattes étaient comme celles de l'ours, et sa gueule comme une gueule de lion. C'est toujours comme, et vous voyez, c'est un mélange. Et si ce sont des mélanges, il n'y a pas une seule image. Ce sont des images, différentes images de violence. Et le léopard n'attaque pas comme l'ours, mais comme le lion. Et donc ça veut dire que la violence peut prendre des formes diverses. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Voilà, c'est que la domination tient ça. Sa puissance de la violence, de cette violence intérieure. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa plaie mortelle fut guérie, et émerveillée, toute la terre suivit la bête, et on adora le dragon qui avait donné le pouvoir à la bête. Et on adora la bête en disant qui est comme la bête et qui peut la combattre. Il lui fut donné une bouche proférant arrogance et blasphème, et il lui fut donné d'agir pendant 42 mois. De quoi s'agit-il? Vous voyez bien qu'il s'agit de l'Empire romain et de cette puissance de l'empereur qui se fait adorer, qui se fait traiter comme un dieu. Mais il tient son pouvoir de la violence. Il ne tient pas de la douceur de Dieu, mais de la violence. Alors, quelle est l'une de ses têtes comme blessée à mort? On a vu cela un peu du suicide de Néron, mais on disait qu'il allait revenir, et même certains ont dit qu'il était revenu, qu'il avait pris la forme d'un autre empereur, comme Dieu il pouvait le faire. Et puis il est venu pour reprendre le pouvoir, un petit peu comme le retour de Napoléon. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais s'appelait mortelle fut guérie. On parle de Nero Redivivus, qui revient à la vie. Et c'est tout ça qui se trouve là, mais transposé dans un langage poétique. poursuit celui qui a le pouvoir et entraîne. Et on adora le dragon qui avait donné le pouvoir à la bête, et on adora la bête. On adore le dragon, c'est-à-dire on adore la violence, et puis on adore la personne qui incarne en quelque sorte cette violence. Qui est comme la bête, et qui peut-on, et qui peut la combattre. Et il lui fut donné une bouche proférant arrogance. Hein? Je reviens au passage précédent. Et on nous avait dit justement, voici le temps du salut et la puissance du règne de notre Dieu et du pouvoir de son Christ. Et on voit bien cette fois-ci hein, qu'il y a une sorte de parodie de l'adoration de Dieu et de son Christ avec l'adoration de la bête. Et précisément, cela nous pose à nous aussi une véritable question. Qui adorons-nous? Qui est semblable à la bête et qui peut la combattre? Et il lui fut donné une bouche proférant arrogance et blasphème. Mais ce prince, cette bête, ne put agir que pendant 42 mois, le même temps. 1260 jours, 42 mois, c'est-à-dire un temps limité. De même que l'histoire de l'Église a un temps limité sur Terre, l'histoire des hommes, ainsi, le pouvoir de la violence est limité. Et ça doit nous réjouir. Et dans la Bible, la violence ou la fureur atteint un comble. Et quand elle fait disparaître les ennemis, elle ne sait plus rien faire. Donc, le comble de la violence est toujours limité. Et Dieu alors peut agir librement à travers tout. Il ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom et sa demeure, et tous ceux qui ont dans le ciel leur demeure. Bon. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. On disait ça aussi de Jésus, hein. Il a le pouvoir sur toute tribu, peuple, langue et nation. Et il ne s'agit pas du même pouvoir. Ils l'adoreront tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Il y a des gens qui adorent le pouvoir, la domination. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il va en captivité. Si quelqu'un est destiné à périr par le glaive, il périt par le glaive. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Un petit verset un peu difficile. Nous songeons un peu, quand nous entendons ce mot, à une sorte de prédestination. Dans la prédestination à la science. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une vision de la réalité de l'histoire. Un fait est plus respectable qu'un leur mère. Et donc, une réalité est plus respectable que toute imagination. N'ayez pas peur, vous passerez par là. Vous aurez des problèmes, vous serez persécutés. Il dit ça à des gens qui sont persécutés et vous leur demandez de prendre patience. Hein. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est ça qui est important. C'est ça qui est indispensable. Mais c'est vrai qu'après coup, on peut dire que chacun a sa destinée. On ne peut pas la prévoir, mais pour Dieu, il la voit. Dieu le prévoit. Il la voit au sens où il travaille, où il fait avec nous, où il fait histoire avec nous. Alors je vis, ça recommence, une autre bête, montée de la terre, celle-là. Il y en avait une qui est de la mer. La mer, nous savons bien que la mer est toujours l'endroit des puissances mauvaises, des puissances mortifères, en quelque sorte. Maintenant, l'autre bête monte de la terre. Elle avait deux cornes, comme un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Vous avez compris tout de suite, c'est un mensonge. Elle a une apparence, mais elle parle autrement. Donc son langage et sa, la réalité de sa vie, ça ne va pas ensemble. Tout le pouvoir de la première bête, elle l'exerce devant elle. Tout le pouvoir de la première bête, elle l'exerce devant elle, donc elle est au service, en quelque sorte, de la première bête. Elle fait adorer par la terre et par ceux qui habitent. Donc elle oblige, en quelque sorte, elle oblige à l'adoration. Elle fait adorer qui? Mais la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. Donc le pouvoir a une sorte de serviteur. De quoi s'agit-il? Elle accomplit le grand signe. Jusqu'à faire descendre un feu du ciel sur la terre devant les hommes. Elle égare ceux qui habitent sur la terre. Par les signes, il lui a été donné de faire devant la bête. Elle dit à ceux qui habitent sur la terre de fabriquer une image pour la bête qui porte la blessure du glaive, mais qui a repris vie. Il s'agit des statues de l'empereur Trajan avait fait, lui aussi, il avait fait édifier une grande statue de lui-même, de Trajan comme Dieu, et avec un système qui faisait parler une voix, une sorte de voix off, voilà, une image. Elle fabrique une image pour la bête qui porte la blessure du bien, mais qui a repris vie. C'est allusion probablement à cette histoire dont je vous parlais tout à l'heure de Néron, Rédivivus, qui est revenu à la vie. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, en sorte que l'image de la bête parle, une statue qui parle. Aujourd'hui, avec le virtuel, il n'y a plus de problème. Il fasse périr tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Ah, il y a même une puissance. À tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, elle impose une marque sur la main droite ou sur le front, le label de qualité. Hein. Vous avez compris? Et nul ne peut acheter, ni vendre, s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Pour nous, c'est devenu le code barre. Ne peut acheter ni vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Et vous commencez à comprendre qu'il s'agit d'une puissance qui est au service de la domination, est au service du pouvoir, d'une manière ou d'une autre. C'est ici qu'il faut de la sagesse, dit l'auteur, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête. Quand c'est un chiffre d'homme, son chiffre est 666. Vous, ça fait couler de l'encre, ce 666. On a imaginé tous les systèmes possibles et imaginables. Généralement, sauf le plus simple. Vous savez bien que les Grecs et les Hébreux, les Juifs n'avaient pas de signe pour dire les chiffres. Ils sont venus par les Arabes, il faut attendre encore quelques siècles pour avoir des chiffres. Et comment est-ce qu'on écrivait les nombres? En écrivant des lettres. 123, ça faisait un WC, voilà. C'était aussi facile que ça. On n'avait que les lettres. Et donc, si les lettres se si les chiffres se désignent par des lettres, quand on voit des lettres, on se demande quelle valeur ça a. Et il y a tout un petit jeu dans ce qu'on appelle la guématrie, d'où vient une déformation d'une géométrie, qui vient la guématrie, qui calcule la valeur des mots. Et vous savez aussi que des chiffres romains, le i, le v, etc., signifient aussi des chiffres. Et donc, on a imaginé que, par exemple, si on disait en lettres hébraïques « César Néron », c'est-à-dire César, l'empereur Néron, intéressant, c'est 666. Et on a jugé toutes sortes de, d'autres noms à travers l'histoire, dont par exemple c'est le nom de certains papes, hein, qui pouvaient faire, hein, si on les transformait, que sur la, si on mettait d'abord hein, des lettres grecques ou bien des lettres hébraïques à la place des lettres latines ou d'autres langues, hein, si on les mettait en hébreu, on pouvait peut-être avoir 666. Temps en temps, il pouvait pas les laisser tomber, vous voyez, beaucoup plus. Mais c'est beaucoup plus simple que ça. 6, c'est 7 moins 1. Ça veut dire le manque. Et 3 fois le manque, c'est vraiment un grand manque. C'est celui qui voudrait aller jusqu'à 7 et qui n'y parvient pas. C'est l'impuissance. Le chiffre de la bête, c'est l'impuissance. Et finalement, la violence se referme sur elle-même. La violence, finalement, est suicidaire. Et c'est bien ça que notre auteur nous dit. La violence se retourne finalement contre elle-même. La première bête signifie le pouvoir. La deuxième bête signifie la propagande. Vous dire aujourd'hui, nous dirions, les médias, ils disent pas toujours la vérité, quand même, hein. Donc, ils ont deux cornes de petits agneaux, mais ils ont parfois une langage de dragon. C'est tout ce qui est au service d'une certaine politique. Ça peut être la mondialisation, une certaine mondialisation qui n'est pas humaine. Ça peut être une réalité politique informatique. Peut-être que d'aller dans ce sens-là, si elle devient comme un dieu, si on l'adore, si on ne voit plus que cette réalité-là, si on oublie la valeur intrinsèque de l'homme. De l'homme faible, pauvre, mis au monde par une femme, et que l'on attaque de tous les côtés. Le pouvoir a à son service beaucoup d'idoles. Et c'est de cette idolâtrie-là qu'il s'agit. Mais cela se passe à l'intérieur de chacune de nos vies. Il y a une présence de Dieu, il y a un temple de Dieu en notre cœur. Il y a une présence de l'agneau. De l'agneau mis à mort, immolé et vivant en notre cœur. Mais il y a aussi tous ces aux dieux de la terre qui l'attaquent. Et le combat spirituel est en nous. Le ciel et la terre se battent à l'intérieur de notre vie. Et toute notre vie, justement, consiste en une purification, et maintenant je vais lire, par le sang de l'agneau, c'est-à-dire par son amour qui va jusqu'à atteindre le plus profond de notre cœur. C'est ce sang de l'agneau qui nous purifie. Il n'y a que l'amour qui nous purifie. Sinon, c'est une purification purement extérieure. Mais la véritable purification, c'est celle de l'amour. C'est quand j'aime que ma violence s'éteint. C'est quand j'aime que je peux découvrir dans chacun de mes frères ou de mes sœurs, même le plus pauvre, le plus ignoré, même le plus handicapé, la présence de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment au cœur de l'Apocalypse. Nous sommes au cœur de la réalité de Pâques qui nous habite. Alors, la mort, le sida, le cancer, les cataclysmes extérieurs, les inondations, les incendies, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer n'a aucun temps. Mais cette réalité profonde, cette présence de Dieu, elle demeure. Et voyez comment à l'intérieur de cet apocalypse, nous avions affaire, et c'est précisément le texte que je vous ai lu d'abord, nous avions affaire à un acte de foi. Tout cela, nous ne le voyons pas. Le Seigneur ne nous empêche pas de souffrir. Il nous dit qu'il est le premier à le faire en nous. Et que notre souffrance, c'est la sienne. Alors, vous découvrez ce que signifie vraiment la véritable libération intérieure. C'est cela que le texte nous révèle. Et pour ceux qui travaillent dans le séminaire des exercices spirituels, ils se rendront bien compte que quand on parle de la grande méditation que fait saint Ignace, qui s'appelle la méditation des deux étendards, il nous dit de contempler Jésus d'un côté, un roi de douceur, un roi intérieur, et de regarder de l'autre côté, hein, lui aussi, mettre en scène Lucifer, il a bien lu l'Apocalypse aussi, hein, Lucifer, ou le serpent, ou le dragon, je peux mettre lui tous les noms possibles et imaginables, ou l'auteur le dit. Il est content. Il dit, mets-toi vraiment hein, en présence de Dieu. Demande-toi si ta foi est réelle, si tu vas jusqu'au bout de ta foi, ou bien si tu concèdes beaucoup de choses aux idoles, ou bien si tu recherches en même temps le pouvoir, si tu recherches en même temps hein, de briller, ou bien si tu poursuis quelque chose qui prend toute ta vie. Pèse les deux réalités et demande-toi à la fin dans ta prière, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? Ce n'est plus moi-même qui vais agir par moi-même, sinon je suis idolâtre, rien à faire. Mais je vais recevoir la purification qui va me permettre de juger en vérité, de choisir. Voilà, nous en restons là ce soir. Nous verrons enfin la prochaine, le chapitre 14 et 15. On va comment cela se passe. Il y a une attendez une petite seconde, si vous voulez bien, il y a une dame qui se rend à Sylvanès jeudi prochain, 29 mars, et qui sera de retour pour le jeudi 26 avril. Si les personnes sont intéressées pour avoir le CD de la cantate, elle peut en ramener une petite quantité. Le coût est d'environ 20 euros. Y aura-t-il des amateurs? 1, 2, 3, 4.